Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Alice Kagouni.
Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans ce journal à la une ce jeudi. Mondial 2022, le Cameroun battu 1-0 par la Suisse. Éventuel déploiement d'un contingent de 2000 soldats étrangers au Burkina dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement burkinabé apporte un démenti formel. Dans un communiqué, les autorités assurent compter sur les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie pour lutter contre l'insécurité que connaît le pays. Journée de la recherche en informatique. La cinquième édition veut relever le défi du développement de l'économie numérique dans la recherche en informatique du secteur privé. Et pour que l'informatique soit un tremplin pour le développement socio-économique du Burkina, une formation et une recherche de qualité en informatique doit être de mise pour disposer d'une expertise nationale. Comment faire face aux défis sécuritaires et sanitaires au Burkina Faso? C'est entre autres autour de ces questions que se tiendront les journées régionales de la logistique. Pour cette première édition, les acteurs vont échanger sur la stratégie d'approvisionnement, les outils et mécanismes d'adaptation du transport conteneurisé ouest-africain face aux chocs sanitaires et sécuritaires. Emmanuel Yoda est le président du comité d'organisation de ces journées. Il est l'invité de la rédaction.
Oméga Sport.
Actualité oblige, nous ouvrons ce journal par le sport. Le Cameroun a effectué sa première sortie contre la Suisse. Les Lions indomptables se sont inclinés 1-0 face à la Suisse. Bernabé Cabré, toujours pas de victoire pour l'Afrique au Qatar.
Tout à fait, toujours pas de victoire pour le continent africain à la Coupe du Monde 2022. Le Sénégal battu 2-0 par les Pays-Bas. La Tunisie et le Maroc qui font match nul. Aujourd'hui, c'est le Cameroun, quatrième pays africain, qui effectue donc son entrée dans la compétition. Les Camerounais vont nourrir de gros regrets. Dominateurs en première période, ils se sont inclinés face à la Suisse, hein, 0-1 pour ce premier match du groupe G. Les Camerounais ont très bien entamé donc cette rencontre. Les hommes de Rigobert Song étaient plus entreprenants en posant des soucis à leurs adversaires sur des contres, mais ils ont manqué parfois de justesse dans la zone de vérité. Jusqu'à la pause, les blocs défensifs des deux équipes ne se découvraient pas avec un match bien cadenassé. Au retour des vestiaires, les Suisses se montraient tout de suite efficaces avec ce but marqué par Mbolo à la 48e minute de jeu. Mbolo, pour la petite histoire, est camerounais. Il est né à Yaoundé, a été naturalisé suisse et par respect pour le Cameroun, il n'a pas célébré ce but à la 48e minute de jeu. Le Cameroun va tenter de revenir au score sans succès. Malgré l'entrée de son attaquant Vincent Aboubakar, les Suisses vont tenir bon et empocher donc les 3 points de la victoire. Pour le Cameroun, il faudra réagir lundi prochain face à la Serbie, quand on sait que dans ce groupe G figure aussi l'un des favoris à la consécration suprême, l'équipe du Brésil.
Alors, la suite de la journée s'annonce chargée avec 3 autres matchs, Bernabé.
Oui, 3 autres matchs. On attend toujours la première victoire africaine et le premier but, puisque jusqu'à présent, aucune équipe africaine n'a marqué. Peut-être que ce sera avec le Ghana qui jouera contre le Portugal de Cristiano Ronaldo à partir de 16h. Une équipe ghanéenne qui s'est bien préparée et qui s'est imposée en amical 2-0 avant la Coupe du Monde face à la Suisse qui vient de battre le Cameroun. C'est un match amical, mais les Ghanéens vont aborder ce match avec le moral au top. Bien avant donc Portugal-Ghana, prévu à 16h, dans quelques instants à 13h, l'Uruguay sera face à la Corée du Sud et on termine à 19h avec cette opposition entre le Brésil et l'équipe de la Serbie.
Merci beaucoup Bernabé Cabré pour toutes ces précisions. La suite de ce journal, le gouvernement dément formellement le déploiement de 2000 soldats étrangers du Burkina Faso pour pour contrer le terrorisme. Des informations diffusées sur les réseaux sociaux et relayées par certains médias suivies plus tard par les services de communication de la primature ont annoncé la décision de l'initiative d'Accra de déployer 2000 soldats étrangers au Burkina pour contrer le terrorisme. Quelques instants après, le porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouédraogo a démenti formellement cette information dans un communiqué. Le gouvernement rassure l'opinion nationale que les autorités de la transition sont convaincues de la capacité du peuple burkinabé en union avec les forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, à relever le défi historique de la restauration de l'intégrité du territoire national, a-t-il écrit. Le gouvernement de la transition réaffirme par ailleurs son attachement à la coopération sous-régionale, ainsi qu'à tout effort de recherche de solutions concertées à la crise sécuritaire dans notre espace commun. Et pour revenir sur les conclusions de cette rencontre d'Accra, le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela estime que la force multinationale conjointe de l'initiative d'Accra devrait se mettre en place très rapidement au regard de l'urgence qui s'impose.
Je crois que c'est dans un délai de 3 mois ou quoi comme ça. Je n'ai pas le délai précis en tête, mais c'est très très rapide. Parce que nous avons fait comprendre que le Burkina Faso n'est pas dans une position où on peut encore attendre longtemps. Parce que chaque jour qui passe, il y a des vies qui se perdent. Ce serait une force permanente, n'est-ce pas, de lutte contre le terrorisme. Donc de soutien. Et il y a un pays comme le Nigeria, par exemple, est un membre observateur. Ce n'est pas encore un membre signataire. Mais le Nigeria s'est dit disposé à accompagner cette force conjointe-là en appui aérien, puis en appui logistique. Donc je pense que bon, c'est assez sérieux. Parce que les autres pays ont compris que si le terrorisme n'est pas vaincu au Burkina Faso, il va s'étendre sur tous les pays limitrophes du Burkina Faso. C'est pas pour rien que l'initiative d'Accra comprend essentiellement tous les pays voisins du Burkina Faso. En essayant de lutter contre le terrorisme au Burkina Faso et au Sahel, ils luttent pour leur propre protection.
On rappelle, l'initiative d'Accra existe depuis 2017. Elle regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo, le Mali, le Niger et récemment le Nigeria ont été admis comme observateurs. Mettre fin aux lourdeurs administratives, le ministère de la fonction publique donne le ton. Lutter contre la corruption et stopper les lenteurs dans l'administration, ce sont entre autres objectifs que se donne le ministère, dont Bassolma Bazier à la charge. Il a organisé un atelier de validation de son code d'éthique et de déontologie. Cette nouvelle approche du ministère entre dans le cadre de la politique de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Les activités de validation du document ont eu lieu ce jeudi à Ouagadougou. Le compte-rendu avec Moumouni Tamboura.
Tout ministère devrait disposer d'un code d'éthique et de déontologie, préconise l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Cet atelier a réuni des agents de la fonction publique qui doivent réfléchir et amender le document qui porte validation des règles de conduite de tout agent de la fonction vis-à-vis des usagers fondés sur les principes et des valeurs. Bernadette Kafando, chef de service permanent du ministère de la fonction publique.
En termes de principes, on peut citer déjà la transparence, l'intégrité, la loyauté, le professionnalisme. Et en termes de valeurs, on a l'esprit de sacrifice, on a l'esprit d'équipe, on a l'esprit de dialogue, le respect aussi.
Ce code d'éthique et de déontologie, une fois validé, servira de boussole aux agents, notamment sur la confiance, le sens de responsabilité ainsi que le respect mutuel. Il permettra également de lutter contre la corruption, pense Idrissa Sinon, inspecteur général du ministère de la fonction publique.
La lourdeur administrative et par ricochet la corruption. Parce que tout le monde sait que c'est quand les choses traînent que les gens ont le temps quand même de parler et puis de passer par d'autres moyens pour pouvoir donc traiter les dossiers. Mais si chacun donc doit se mettre à la tâche de façon désintéressée, alors c'est l'usager qui gagne et l'administration publique aussi se portera davantage mieux.
Aux usagers non satisfaits, Idrissa Sinon rappelle sur la possibilité de signaler les appréciations sur les plateformes du ministère de la fonction publique.
Journée de la recherche en informatique, l'innovation technologique et l'économie numérique au centre de la 5e édition. La ministre de la Transition digitale, Aminata Zerbo-Sabane, a lancé officiellement ce jeudi 24 novembre à l'Université Aube Nouvelle la journée de la recherche en informatique, placée sous le thème « Apport de la recherche en informatique au développement du secteur privé ». Cette édition représente une plateforme d'échange, de connaissances et de partage d'expériences pour les participants. Yaya Diomondé.
48 heures à l'Université Aube Nouvelle pour commémorer la recherche en informatique, une opportunité pour l'écosystème et l'auto-employabilité, selon la copatronne de cette journée, Aminata Zerbo, ministre de la Transition digitale.
Je suis déjà convaincue que les préoccupations de l'écosystème trouveront écho aux fruits des réflexions qui seront menées. Ces réflexions devront permettre d'impacter positivement différents domaines de la vie économique et sociale de nos pays, notamment la création d'entreprises innovantes et partant la création d'emplois grâce à une maîtrise endogène de la transformation digitale.
Mokhtatou, chercheur en informatique, a saisi cette opportunité pour exposer le fruit de la recherche de sa structure à l'occasion de cette journée. Il s'agit d'un drone pour appuyer la production forestière.
Avec ce drone, il suffit seulement des images et faire le traitement dans votre bureau et vous allez de façon exacte connaître l'effectif, le nombre total des plantes dans votre verger.
C'est une première qu'une université privée accueille les activités de la journée de la recherche en informatique. Des workshops ont été tenus du 21 au 23 novembre dans le cadre de cette commémoration qui se poursuit jusqu'au samedi 26 novembre à travers des expositions et d'espaces d'échange.
Un mot de littérature dans votre journal. Auguste Jean-Yves Népier, journaliste et poète, vient de publier deux œuvres littéraires, les recueils de poèmes intitulés respectivement « Le silence des morts » et « Des fleurs et des épines ». Aborde plusieurs thèmes, à savoir l'union, le terrorisme. Autre, à travers ses œuvres littéraires, l'auteur entend interpeller et dénoncer les maux qui rongent notre société. Retour sur la dédicace de ses livres avec Jean-Paul Ouedraogo.
Le silence des morts, recueil de poèmes de 117 pages, édité en 2021, et le second recueil, intitulé « Des fleurs et des épines », composé de 135 pages et édité en 2022, sont tous deux œuvres littéraires qui traitent la patrie, du genre pour ne citer que ces thèmes-là. Journaliste, l'auteur Auguste Jean-Yves Népier s'est inspiré de la poésie pour s'exprimer sur plusieurs thèmes qui l'interpellent. Auguste Jean-Yves Népier, auteur des livres.
Poésie parce que c'est le genre littéraire qui me parle le plus. C'est le genre littéraire où je me sens le plus à l'aise et qui exprime parfaitement ce que je ressens. Le silence des morts est un recueil de 44 poèmes qui incite et qui sensibilise à la paix, à la cohésion sociale et qui dénonce plusieurs maux comme le terrorisme, la pauvreté, l'aliénation, les changements climatiques, les violences basées sur le genre. Des fleurs et des épines parlent de ces mêmes thèmes qui sont les violences basées sur le genre, le terrorisme, la pauvreté, la mort.
Bon nombre de difficultés ont été rencontrées avant la sortie de ces deux œuvres. Cependant, l'auteur se dit prêt à poursuivre la promotion de ses œuvres et promet produire d'autres œuvres littéraires. Auguste Jean-Yves Népier.
La suite, c'est faire de la promotion, rencontrer les établissements. Je suis ouvert à toutes les invitations pour parler du livre lors des cafés littéraires, lors des entretiens télé. Pour la vente, nous allons travailler à disponibiliser le livre dans tous les rayons partout au Burkina.
Les œuvres « Le silence des morts » et « Des fleurs et des épines » sont disponibles au prix de 3 000 et 4 000 francs CFA.
Et dans l'actualité hors de nos frontières, un accord a été trouvé pour un cessez-le-feu immédiat entre la RD Congo et le Rwanda. Cet accord prend effet dès demain vendredi à 18h dans l'est de la République démocratique du Congo à l'issue d'un mini-sommet à Luanda tenu hier mercredi, a annoncé le ministre angolais des Affaires étrangères. Le président congolais Félix Tshisekedi y était notamment réuni avec le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta, en l'absence du président Paul Kagame. Les parties se sont également accordées pour exiger le retrait immédiat des rebelles du M23 des zones occupé, a précisé le ministre Tété Antonio à l'issue de la réunion. Les délégations étaient reçues par le président angolais et médiateur désigné par l'Union africaine.
La revue de presse.
Les pays membres de l'initiative d'Accra ont décidé qu'une force conjointe sera mise en place dans un mois pour lutter contre les groupes armés terroristes. On estime à 550 millions de dollars la somme nécessaire pour mettre la machine en route. Mais qui paie la facture s'interroge à l'unisson les journaux du jour. Et la Coupe du monde Qatar 2022, le Maroc fait match nul face à la Croatie. Feuilletons ensemble quelques pages dans la revue de presse avec Valérie Guéret.
Les quotidiens du jour ont tous titré sur l'initiative d'Accra. Initiative d'Accra, les Warriors à Tamale, le renseignement à Ouaga, titre aujourd'hui au Faso. Initiative d'Accra, gare au syndrome du G5 Sahel, martèle l'observateur Palga à sa une. Et l'Express du Faso qui annonce aux terroristes que l'initiative d'Accra prend forme et arrive. D'ores et déjà, l'Express du Faso pense que les pays de la sous-région ne peuvent continuer de faire semblant face au péril terroriste, car aucun pays n'est et ne sera épargné. C'est donc dès à présent qu'il faut prendre des dispositions communes pour l'endiguer et permettre les actions de développement pour le progrès économique et social des populations de l'espace, commente le journal Bobolais. Et le journal Le Pays qui propose qu'il faut aller au-delà de la coopération militaire qui focalise toutes les attentions de l'initiative d'Accra. Il faut envisager des solutions structurelles qui permettent de tarir les sources de financement du terrorisme dans les États membres. Et on estime à 550 millions de dollars la somme nécessaire pour mettre la machine en route, nous apprend l'observateur Palga. Mais qui paye la commande de Martel aujourd'hui au Faso, qui se pose la question de savoir les 500 millions de dollars viendraient en grande part d'où? De la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, du Royaume-Uni? C'est à l'aune des billes que chacun mettra dans la caisse que cette force sera efficiente ou pas, estime ce quotidien burkinabé. Coupe du monde à présent, les lions de l'Atlas sur les traces des aigles de Carthage, titre le journal Le Pays pour qui le troisième représentant du continent africain, le Maroc, a tenu en échec 0-0 la Croatie, vice-championne en titre, amené par son emblématique capitaine et maître à jouer du Real Madrid, Luka Modric. Luka Modric, le ballon d'or 2018, qui dispute peut-être sa dernière grande compétition internationale à 37 ans avec l'équipe nationale, n'a pas su sortir son équipe de l'étau marocain, conclut l'Express du Faso.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Les premières journées régionales de la logistique vont se tenir du 1er au 3 décembre prochain. Les conteneurs sont devenus un outil irréversible pour la meilleure rotation des moyens de transport et de sécurisation des marchandises. Ces journées qui réuniront les acteurs de la chaîne de transport du Burkina et de la sous-région visent à promouvoir le transport conteneurisé. Le thème retenu pour cette édition est « Chaîne logistique d'Afrique de l'Ouest face aux défis sécuritaires et sanitaires, enjeux et perspectives pour le transport conteneurisé ». Nous en parlons avec notre invité de la rédaction, Emmanuel Yoda, président du comité d'organisation de ces journées. Il répond aux questions de Abdulaziz Zoulabou.
Que doit-on entendre par chaîne logistique et pourquoi des journées dédiées à la logistique?
Alors, la chaîne logistique, c'est toutes les opérations qui sont menées pour permettre donc à la marchandise, depuis son lieu de fabrication, d'être donc livrée au client final. Alors, de ce point de vue, la chaîne logistique comporte une multitude d'acteurs. Et ces acteurs donc vont agir dans le sens d'atteindre un objectif d'optimisation des délais et de coûts de ces opérations-là. Alors pourquoi organiser des journées régionales de la logistique ? consacré, pour ce qui nous concerne, à la promotion du transport conteneurisé. Le conteneur constitue un outil de facilitation par excellence qui permet d'atteindre des objectifs donc de célérité, une meilleure rotation des moyens de transport, de sécurisation des marchandises et ainsi de suite. Au plan international, au plan mondial actuellement, la tendance à la conteneurisation est irréversible parce qu'il y a des initiatives de la part des acteurs, notamment des armateurs qui commandent donc des navires de plus en plus gros et qui aujourd'hui tendent autour de 24 000 TEUs, équivalent à 20 pieds. Nous organisons donc les journées régionales de la logistique pour permettre aux différents acteurs, la chaîne de transport de manière globale et la chaîne de transport conteneurisé spécifiquement, de se retrouver, de se sensibiliser, de se former, d'échanger leurs expériences respectives, mais aussi d'identifier les difficultés qui minent l'utilisation du conteneur et de proposer des solutions qui, de leur point de vue, permettraient donc de booster le taux de conteneurisation.
Des journées nationales aux journées régionales de la logistique, qu'est-ce qui a motivé ce changement?
Donc les participants à ces journées-là viennent du Burkina, certes, mais aussi des pays limitrophes de transit, de l'Afrique centrale, voire de l'Europe. Il y a les intervenants et les acteurs même de la chaîne logistique qui sont internationalisés, qui sont les ports de transit du Burkina Faso et qui sont aussi un certain nombre donc de communicateurs qui ne sont pas localisés au Burkina Faso. Et troisièmement, les problématiques donc de la conteneurisation ne concernent pas que le Burkina. C'est des problématiques qui naissent depuis. Et enfin, naturellement, les solutions qui vont sortir donc de ces travaux-là et sont les solutions qui vont probablement être des solutions plus efficaces à la dimension régionale. Parce que le nombre de boîtes manipulées au Burkina Faso est vraiment uniquement ne permet pas d'influencer. Et en tout cas, ces échanges-là, les acteurs qui vont faire ces concessions pour nous permettre de booster le taux de conteneurisation.
Chaîne logistique d'Afrique de l'Ouest face aux défis sécuritaires et sanitaires, enjeux et perspectives pour le transport conteneurisé. Pourquoi le choix d'un tel thème?
La première édition des journées régionales de la logistique devait initialement se tenir en 2020. Et naturellement, comme vous pouvez vous en douter, la pandémie de la COVID n'a pas permis de tenir cette édition à bonne date. Et par ailleurs, cette pandémie a impacté considérablement la chaîne logistique et de transport en général et conteneurisée en particulier. Et depuis quelques temps aussi, et vous le savez, nos pays, que sont l'Interland ou les pays du Golfe de Guinée, font face à un défi sécuritaire important lié au terrorisme. Vous avez également la guerre, depuis quelques temps, la guerre en Ukraine qui impacte aussi le transport international, donc le transport donc conteneurisé de marchandises. Et voilà des données qui nous ont motivés au choix de ce thème-là.
Quelles sont les activités inscrites à l'agenda de ces journées?
Il y a premièrement, naturellement, la cérémonie d'ouverture qui va ponctuer les discours. Ensuite, vous avez le déroulé des communications sur 10 thèmes, sur 10 sous-thèmes qui permettent donc de cerner les contours du thème principal. Et ces thèmes-là, et cette communication font suite à des panels d'échange. Et enfin, il y a donc des conclusions qui sont élaborées par les participants de manière constructive. Et enfin, il y aura une cérémonie de clôture qui va permettre donc de partager ces conclusions-là avec non seulement ceux qui sont absents de la salle, mais les autorités, les différentes personnalités, les différentes institutions, les différents partenaires auxquels donc ces recommandations seront adressées et qui sont concernés de près ou de loin par donc cet événement.
Alors, quels sont donc les pays attendus et qui peut prendre part à ce séminaire?
Alors, les journées régionales de la logistique sont ouvertes à tout le monde, à tous les pays, à tout intervenant, à tout acteur intéressé, et par donc la question de la logistique et de transport conteneurisé. Cependant, et pour ce qui concerne les journées régionales de logistique qui se tiennent du 1er au 3 décembre prochain, les principaux acteurs sont naturellement les chambres consulaires, vous avez les conseils des chargeurs, les armateurs, les acteurs portuaires, qui sont notamment les administrations des ports, les manutentionnaires, les consignataires, vous avez les transporteurs, qu'ils soient routiers, ferroviaires, des administrations publiques, qu'elles soient donc les douanes, l'administration des transports, l'administration du commerce, les infrastructures, et naturellement les chargeurs, les commissions d'hommes agréés, transitaires et donc naturellement aussi enfin les organisations d'intégration sur-régionale que sont l'UMO, la CDAO et nos partenaires techniques et financiers que sont la JICA, et etc.
Parlez-nous maintenant des conditions de participation.
Alors, conditions de participation, il est demandé aux participants de contribuer à hauteur de 150 000 francs et pour ce qui concerne les acteurs, donc la chaîne logistique, pour permettre aussi à ceux qui sont dans le domaine de l'apprentissage, que sont les étudiants en master logistique, il leur a permis également, moyennant une contribution de 50 000 francs, donc d'y part et de prendre part également.
Merci beaucoup, Monsieur Yoda.
C'était l'invité de la rédaction.
Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Il a été réalisé par Adama Konaté. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.